On va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours, sur le 10e chapitre de Guérat Hatshuva. Bonsoir, on vient de commencer. Dans le chapitre précédent, chapitre 9, on a beaucoup parlé de ce qu'on appelle Bgam Abrit. Ça veut dire le défaut de lié au Balabrit Mila, lorsqu'on a de la semence en vin. Et on a expliqué que normalement, la faute du Brit est une faute tellement grave que la Teshuvah ne devrait pas marcher pour ça. Et on a expliqué que comment on fait pour faire Teshuvah. Il y a Teshuvah Tata'a et Teshuvah Ila'a. Il y a la Teshuvah de bas niveau et la Teshuvah de haut niveau. C'est quoi la Teshuvah de bas niveau? Et d'ailleurs, on va beaucoup développer dessus aujourd'hui, très intéressant le cours d'aujourd'hui sur le chapitre 10. C'est quoi la Teshuvah de bas niveau? Si on devait résumer en un mot.
C'est quelle page?
C'est la Teshuvah, chapitre 10. C'est quoi la Teshuvah de bas niveau? C'est une Teshuvah par la peur, qu'on appelle souvent la Teshuvah du gendarme. Par la peur du gendarme.
Ouais.
Hein, c'est comme, tu poses la question à quelqu'un, tu lui dis, pourquoi tu fais attention de ne pas faire un excès de vitesse? Qu'est-ce qu'il va te répondre?
Peur du gendarme.
Il va dire, parce que j'ai peur du radar.
Ouais.
En vérité, c'est pas ça la réponse qu'il devrait donner. Qu'est-ce qu'il devrait donner comme réponse?
J'ai peur du
non.
Pourquoi?
C'est interdit.
C'est interdit? Ah. Pourquoi c'est interdit? Même c'est interdit, c'est pas la bonne réponse. Parce que c'est interdit, ça veut dire que tu dis, moi j'ai envie de le faire, mais on me l'a interdit.
Dans la loi.
Mais c'est, non, c'est pas ça la vraie réponse.
Dangereux.
Dangereux, voilà. Ça c'est la réponse. Pourquoi tu vas faire un excès de vitesse? Parce que c'est dangereux. Mais la majorité des gens, quand tu leur demandes pourquoi tu fais pas un excès de vitesse, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ils vont te dire, bon, parce que j'ai pas envie de me faire arrêter. J'ai pas envie de perdre mes pains. J'ai pas envie de payer une amende, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux catégories de peur. Tu as la peur du gendarme, et tu as la crainte de la chose. Ça veut dire, par exemple, tu n'as pas envie, comme t'as dit David, parce que c'est dangereux. C'est dangereux, donc la chose elle-même me dérange. Ça, c'est la différence qu'il y a entre Teshuvah Tata et Teshuvah Ila. La Teshuvah de bas niveau et la Teshuvah de haut niveau. Une Teshuvah de bas niveau, d'accord, c'est une Teshuvah que tu fais Teshuvah, que la personne fait Teshuvah. Pourquoi elle fait Teshuvah? Par la peur du gendarme. Une Teshuvah de haut niveau, c'est une Teshuvah dans laquelle une personne fait Teshuvah parce qu'elle a envie de s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, d'après vous, je vais vous poser une question. D'après vous, la Teshuvah que la majorité des gens font, fait à quel niveau? Pourquoi les gens font Teshuvah aujourd'hui? Hein? Pourquoi les gens font des chevaux aujourd'hui en général? Qu'est-ce que vous pensez?
Pourquoi pas?
Hein? Réfléchissez.
Ils ont peur
de quoi? Ils ont peur de la punition?
Hein?
Ils ont conduit à cause d'un événement majeur.
Ils vont la prendre en ligne.
Non.
Non, c'est-à-dire quelque chose qui arrive dans ta vie.
Ouais, ça peut être ça, mais ça peut être. À cause d'un événement majeur, ils ont compris.
Donc ça, c'est. Ah, attention! Événement majeur, ça, attention, ça, tu as dit.
Oui, il a perdu un vieux d'un proche.
Mais c'est pas une Teshuvah par la peur, ça.
Non, c'est pas par.
Bonsoir.
Ouais,
bonsoir. Alors, on essaie d'expliquer aujourd'hui la notion de Teshuvah. Comment il y a une Teshuvah de bas niveau et une Teshuvah de haut niveau. En vérité, la majorité d'entre nous, lorsqu'on fait Teshuvah, c'est une Teshuvah qui est comment? C'est une Teshuvah de bas niveau. Mais aujourd'hui, ce qu'on va expliquer, très intéressant ce chapitre, on va expliquer comment, en vérité, la Teshuvah de haut niveau est un niveau qui est accessible à tous. Seulement, pour réussir, il faut avancer les filles à Seder. C'est quoi Seder, monsieur Yazdi?
L'ordre.
L'ordre. L'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce chapitre, on va expliquer que lorsque tu avances dans la Torah de manière méthodique, tu finis par arriver même au niveau des plus grands tzadikim. Tu peux y arriver. Il faut avancer avec un ordre, avec un seder. Et ça me rappelle le Hayom Yom de ce matin, pour ceux qui étaient là. Dans l'Hayom Yom de ce matin, on dit que il y a une fois, on a parlé devant le Rabbi Rachab. Et on a dit au Rabbi Rachab, on lui a dit que les chassidines de la Admor HaZaken, ils aimaient compter. Non, ils aimaient compter. Quand je dis aimer compter, c'est pas aimer compter l'argent. Ils aimaient compter. C'est-à-dire compter les jours, compter l'importance, compter. Et quand le Rabbi Rachab a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est très important de compter les jours, mais pour compter les jours, il faut d'abord compter
les heures.
Razak, tu étais là ce matin. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'en vérité, en vérité, c'est très important. En vérité, le Rabbi Rachab, il nous apprend l'importance du seder. Quand tu es ordonné, quand tu as un programme, quand tu sais ce que tu dois faire, tu arrives à avancer dans les choses. Et même des niveaux de grands tzadikim, tu les obtiens. Maintenant, au lieu de les avoir en un jour, tu les auras en un an. Et pas de problème. Ça prend tant que ça prend.
Même dans la vie en général.
Même dans la vie. C'est-à-dire qu'une personne qui commence sa journée, tu lui poses la question, tu lui dis, tu peux poser la question à ton fils, tu peux poser la question à ta fille, tu peux poser la question à ta femme, à toi-même, tu te poses la question. La première personne qu'on a posée, c'est à soi-même. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et ce soir, la question que tu dois te poser, c'est, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui correspond à ce que j'ai prévu de faire? Alors, il y a des imprévus. Des imprévus. Des fois, tu as prévu de faire quelque chose, c'est pas passé exactement comme tu pensais. Mais si tu as bien prévu ta journée, normalement, ce qui va se passer, ça doit ressembler à ce qui va se passer. Les imprévus existent toujours. Mais il faut quand même un céder. C'est-à-dire, c'est pas, tu peux pas aller, tu peux, tu sais, par exemple, des fois, des gens, ils prennent leur smartphone pour aller sur Google. Pourquoi tu vas aller sur Google? D'accord? Tu vas aller sur Facebook. Pourquoi tu vas sur Facebook? Combien de temps tu vas aller sur Facebook?
Perdre du temps.
Ah, et bon, peut-être qu'il va aller voir, il va aller voir un cours de Torah. Peut-être qu'il va aller voir les nouvelles de sa famille. Pourquoi pas? C'est bien. Mais je lui pose la question, je lui dis, combien de temps tu commences sur Facebook? Qu'est-ce qu'il te répond?
Je sais pas.
J'en sais rien. Peut-être 5 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 4 heures.
Ouais.
Des gens qui vont rester 4 heures sur Facebook. Alors je dis Facebook, ça peut être la télé. Et il est là, il rentre à la maison, il est sur le canapé, il dit bon, on va allumer la télé. Bon, je ne rentre pas dans la question autorisée, interdit, il allume la télé. Tu lui poses la question, tu lui dis combien de temps tu vas être devant la télé? Quand tu vas au boulot, tu te poses la question combien de temps je vais rester au boulot.
Ça, c'est sûr,
Tu dis à quelle heure je rentre, à quelle heure je sors. Et pas une minute de plus, attention. Donc quand il est devant la télé, je pose une question, je dis, c'est pas une question que je te pose, c'est une question que tu te poses. Je dis, mais combien de temps je vais rester devant la télé? Je sais pas. Je vais regarder, on va zapper, on va bien
ce qu'on voit.
On verra en fonction du programme, s'il y a un truc sympa, on restera, sinon on restera pas. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu vas faire ce soir. Tu vas être ce soir maintenant, t'as 2 heures, 3 heures, 4 heures devant toi, tu sais pas ce que tu vas faire. Ok, il prend son téléphone, il va aller sur son téléphone, sur l'ordinateur, il va aller sur YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire sur YouTube? Les jeunes leur disent, ils vont sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur YouTube? Je sais pas, je vais voir ce qu'il y a. Mais combien de temps tu vas rester sur YouTube?
Dépend.
YouTube, Instagram, etc. Enfin, tous les trucs que les...
Nos limites.
Hein? C'est pas nos limites. C'est pire que nos limites. C'est que les khatrila, c'est pas défini. D'emblée, c'est pas programmé. Si quelqu'un, il a prévu, il dit, cette nuit, je vais passer toute la nuit dehors. Mais il a prévu. Je dis pas que c'est bien, mais c'était prévu. C'était programmé. C'est pas que il était là, au début de l'année, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais cette nuit? Il dit, je sais pas, peut-être je vais dormir, peut-être je vais sortir, je sais pas. Après, tu le vois à 4h du matin, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais cette nuit? Il dit, je sais pas, pour l'instant je suis là, peut-être on va dormir, peut-être on va pas dormir, je sais pas, la nuit est longue, on verra bien. C'est une vie, ça?
Non.
Tu veux passer la nuit? Dis-moi, je veux passer la nuit, pas de problème. Tu veux passer la nuit, faire Fabringen, tu veux passer la nuit avec des copains, tu veux passer la nuit faire la fête?
Dis-moi, c'est comme un drogué, le mec.
Justement,
c'est
pour ça que j'explique. Non, mais c'est les exemples que je donne. Ne crois pas que... Attends une seconde. Parce que tu crois qu'avant les portables, il n'y avait pas de problème?
Non, mais quoi qu'il arrive,
c'est
toujours mieux.
C'est rien. Les portables, c'est un détail.
Il y a toujours un vice.
Alors avant, c'était le portable, après c'était la salle, après ci, après ça. Ça change. Mais
on est drogue.
Mais ça change. Mais le phénomène reste le même. C'est le problème qu'une personne n'est pas mesoudar. Mesoudar, ça veut dire quoi? Il n'est pas ordonné. C'est pas ce qu'il va faire. Je sais pas. Tu lui dis à quelle heure tu dors ce soir? Je sais pas. Peut-être je dormirai à 23h.
On regarde les informations.
Peut-être je dormirai à 2h du matin. Peut-être s'il y a un bon polar, je veux dormir à 4h du matin.
Hein? C'est pas les heures.
Voilà. Peut-être, c'est possible. Hein? Il sait pas.
Ça, c'est une question.
Quoi? Tu, je comprends pas, tu sais pas. Mais t'as une journée demain.
Oui,
et la journée demain, elle sera pas la même si t'as dormi 4h, 5h, 6h ou 8h. C'est pas la même.
C'est clair.
Et à quelle heure tu te lèves demain? Je sais pas,
non. Ça, par contre,
c'est
le matin, on sait. Je sais pas. Quelle heure tu te lèves demain? Je sais pas.
Tu sais pas, c'est dans quel état tu vas te lever.
Ouais.
Il y en a qui sont réveillés cette nuit pour regarder Game of Thrones.
Jusqu'à 3h, 3h30.
J'aurais bien regardé ça, moi.
15h, 15h.
Alors, c'est vrai qu'il y a les imprévus. Il y a les imprévus. Voilà, par exemple, tu apprends des choses, tu dis voilà, t'as quelqu'un, il fallait voir quelqu'un qui est malade, etc. Il y a des imprévus dans la vie, c'est pas un problème. Je suis pas en train de dire qu'on doit être calé comme une horloge, cadré comme une horloge, et de dire que j'ignore tous les, faire chaque chose qui voudrait défrayer un petit peu mon programme. Je dis, non, je peux pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Au contraire. Il y a des situations dans la vie où il faut t'obliger de faire un écart, une parenthèse, de dormir moins, de faire d'autres choses. Les surprises sont là. Surtout quand on est père de famille, on a des enfants, on aura peut-être après des petits-enfants, etc. Les imprévus arrivent. Ma question n'est pas ce qu'est les imprévus. Un imprévu, c'est lorsqu'il y avait quelque chose de prévu.
On a compris ta question. Hein, on a très bien compris.
Non, tu comprends. L'imprévu, c'est quand tu avais quelque chose qui était prévu et que tu as un imprévu qui est arrivé. Bon, j'ai un imprévu. Mais quand les Khatrila avaient rien de prévu, c'est pas un imprévu. T'as prévu de rien prévoir.
L'enjeu est là. L'enjeu est là.
Tu comprends?
Mais excusez-moi, vous poussez à l'extrême les raisonnements, mais d'un autre côté, moi, quelqu'un qui est tout le temps.
Marcel.
Tout le temps qui a un compteur dans la tête ou machin qui.
Merci.
C'est une catastrophe.
Bien sûr. Voilà, mais après, d'un autre côté, il faut vivre le moment. Hein, comme ils disent, carpe diem. Faut vivre le... Non.
Quelqu'un qui a une vie plutôt très militaire.
Non, j'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit pour une vie militaire. C'est pas ce que j'ai dit.
Je vais faire ça. Là, je vais me coucher. Là, je vais faire ma prière. Là, je vais regarder.
Ce que je dis, c'est que dans la vie, il faut avoir un CDR. Il faut avoir un programme. Je sais à quelle heure je me lève, je sais ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai un programme. Après, est-ce que mon programme va correspondre à la réalité? Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non, il y a des imprévus, c'est possible. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'avais prévu ce matin une journée. La journée que j'ai aujourd'hui était complètement différente de ce que j'avais prévu. Il y a eu des imprévus, des choses par-ci, des choses par-là, etc. Mm-hmm. Oh, Hachem, bon, c'est comme ça. Mais au moins, quand tu commences ta journée, il faut au moins essayer d'avoir une idée de qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. Parce que quand t'es mesoudar, tu peux avancer, sinon tu peux pas avancer. Et d'ailleurs, on a un sale sentiment quand t'arrives le soir et que t'as l'impression que t'as rien fait aujourd'hui. C'est horrible. C'est pour ça qu'en vérité, vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles en vacances, on se sent fatigué. Parce que quand t'as des journées comme ça que tu commences et que t'as rien prévu, tu comme ça, ça fatigue de rien faire. Parce que ton cerveau, il fonctionne tout le temps. Donc, quand tu tournes à vide, t'as déjà fait tourner un moteur à vide? Ça fatigue le moteur. Quand tu fais tourner que le moteur, il a entraîné les pignons, la courroie, etc., et qu'il tourne, ça lui fait du bien. Mais quand le moteur, il tourne à vide, ça le fatigue. C'est pas fait pour tourner à vide. C'est pour ça que c'est important de programmer. Et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. On va expliquer que lorsqu'une personne est programmée, il avance step by step. Hein, c'est quoi step by step? Step by step. Étape par étape. Hein, étape par étape. On peut y arriver. Ok? Ok. Vine. Hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Métro, boulot, dodo.
C'est pas grave.
Et vacances, hein.
Non, métro, boulot, dodo, mais c'est programmé. Voilà, c'est pas grave.
Il y a beaucoup d'heures qui passent entre.
C'est vrai. C'est-à-dire, quand on réfléchit en vérité, à quelle heure tu te lèves le matin?
7h.
À quelle heure tu vas dormir?
Minuit, une heure.
Minuit ou une heure?
Des fois, minuit, demande.
Des fois, minuit, une heure, c'est pas la même chose.
Pas ce qu'il y a à la télé.
Non.
On va dire minuit. Donc, ça veut dire, minuit. Donc, ça veut dire que de 7 heures du matin à minuit, il y a combien d'heures?
Il y a
7 heures.
Hein?
De 7 heures?
Non.
Non.
De 7 heures du matin jusqu'à minuit, il y a combien d'heures?
17 heures.
Hein?
17.
Combien?
17.
Oui. 17 heures.
24 mois.
Qu'est-ce que t'as fait pendant 17 heures?
T'as travaillé.
Bon. Donc, combien de temps t'as pris pour prier? Faire la fila.
Ça,
hein? Combien de temps t'as travaillé?
On a travaillé 8 heures.
8 heures.
Ouais.
Donc il reste combien d'heures?
Non. Il reste 9.
Il reste 9 heures. 9 heures, c'est long 9 heures. T'aurais 9 heures, t'avais le temps d'arriver à New York.
De 7h15 jusqu'à 7h15 jusqu'à 9h30.
9 heures, t'as le temps d'aller à New York à 9 heures.
De 7h15 jusqu'à
9h. Donc, retire 1h30.
Je me rappelle à l'époque quand j'étais allé à Yeshiva, comme mon grand-père à la Vachalom à Lyon. Alors, moi, dans ma tête, je connaissais pas trop, je connaissais Paris-Lyon. Alors, c'est combien de temps Paris-Lyon?
2 heures.
En train, 2 heures. Et je me rappelais que c'est de fois quand tu passais du temps et que bon, le temps il passait à rien faire. Et quand tu vois que 2 heures sont passées, tu dis, mais 2 heures? Mais j'aurais pu aller à Lyon. Ouais. C'est-à-dire, c'est, du style, 2 heures, c'est long, 2 heures. Tu aurais pu voyager, tu aurais pu changer le monde. Ah, c'est l'importance, c'est pour ça qu'on parle de l'importance d'être mesoudar. Organisé. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos enfants, ça. Leur apprendre à être mesoudar. Moi, j'ouvre une parenthèse, hein, c'est pas vraiment le thème, mais des fois on parle avec des parents. Il y a des maisons dans lesquelles il n'y a pas d'heure où on va dormir. Il n'y a pas d'heure.
Dedans.
Hein, pose la question, tu dis à quelle heure vont dormir les enfants? Tu poses la question, parce que tu vois les enfants, ils sont fatigués, ils ont des cernes, ils ont des trous dans les yeux. Ouais, tu dis, mais à quelle heure vont dormir les enfants? Bah, il dit, écoute, ils sont là. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, ils font la Java jusqu'à ce qu'ils s'écroulent sur le canapé. Ou par terre, ou je ne sais où, ou dans le lit de, ou dans le lit de papa, ou sur leur lit, etc. Ils s'écroulent, et bah, ils s'écroulent. Donc, on sait pas à quelle heure ils sont partis dormir. Tu dis, mais à quelle heure ils sont endormis? Je sais pas, peut-être 22h, peut-être 23h, peut-être 20h30, c'est possible aussi, hein. Peut-être, je sais pas.
J'ai perdu du temps. Hein.
Quoi?
Les miens jamais ils s'écroulent.
Alors, t'as prévu de dormir tard.
Je connais pas du tout ça.
T'as prévu de dormir tard. Dors tard! Mais, on peut pas être comme ça. Alors, vas-y, même, il nous a fait tout un cours dessus. Il a dit un enfant, il a besoin d'avoir un programme. Et ça, et s'il a un programme, toute sa vie après, il te remerciera pour ça. Parce que ça l'apprendra à avoir un programme. Tu comprends, quand après, il va grandir, sa femme, elle va lui dire, bon, je t'attends le soir. Maintenant, lui, je ne sais pas à quelle heure il rentre. Peut-être qu'il rentre à 19h, peut-être qu'il rentre à 20h, peut-être qu'il rentre à 23h. C'est vrai, il n'a pas de programme. C'est pas possible de faire ça juste comme ça. Quand il a l'habitude qu'il a un programme, il sait qu'il y a une heure à laquelle tu pars, une heure à laquelle tu rentres, une heure à laquelle tu sors, une heure à laquelle tu... T'as un programme, t'es Mesoudar. Quand t'es Mesoudar, tu réussis dans la vie. T'es pas Mesoudar, comment tu veux réussir? Après, ça dépend du caractère de chacun, mais il faut se travailler dessus. Ok. Alors, on y va. Veiné. Page 257. Veiné. Donc là, dans notre programme, on est au chapitre 10. Veiné, tchouvaïla zo. C'est tchouvaïla, deidabko, derouchaveroucha, le détorog, minutrasadin. Hi, prina, tamshacha, milmal, alemata. C'est tchouva supérieure. Qui consiste à l'attachement du souffle de l'homme avec le souffle d'Akadosh Baruch Hu, par la Torah et par les mitzvot. C'est uprinatam shachamin mal alematam. C'est un niveau dans lequel Akadosh Baruch Hu se révèle en toi et que toi tu n'as plus une existence. Là, si vous voulez, Admor HaZaken va expliquer comment concrètement on y arrive. C'est pas compliqué. On va t'expliquer comment on y arrive. Ce que tu dois savoir, c'est que la teshuvah ilaha, la teshuvah de haut niveau. C'est une teshuva dans laquelle Akadosh Baruch Hu se révèle en toi. C'est-à-dire que tu as réussi à tellement être annulé à Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu parle en toi. On va expliquer ça. Ça a l'air des grands mots ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'il raconte? On va voir. Liot dvar Hashem mamash befiv. De sorte que la parole de Dieu vraiment soit dans sa bouche. Kumo shekatuv, comme c'est écrit, va'asim dvarai befira. Dieu, il dit, j'ai placé ma parole en ta bouche. Et quand on fait gminut rasadim, par les actions de bienveillance, okmo shekatuv, d'accord? Voilà. Ça, c'est l'homme. Donc, en d'autres termes. Le Morazakin dit d'apprendre un principe très important. Et on va tourner la page. On est à la page suivante. Il te dit, quand on parle de teshuvah de haut niveau, c'est un cadeau d'Hachem. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie? Je vais essayer d'expliquer avec des termes concrets. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie de vous sentir d'être propulsé? C'est-à-dire, des fois, tu fais pas spécialement d'efforts, mais tu sens que t'as une aide. Tu sens que, on te pousse, et tu avances, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça?
Oui.
Bien sûr. Est-ce que ça arrive, à Kippour, Rosh Hashanah? Je sais pas. Pas spécialement. Ça peut arriver n'importe quand. Il y a des situations dans la vie où tu sens que t'as un cadeau d'Hachem. C'est quoi ce cadeau? Tu te sens propulsé. Comment il dit ici? Des fois, t'as l'inverse. D'accord? Ça veut dire quoi? Tu te sens propulsé. T'es chouvaillé là. Ça te dit l'Admor HaZaken, il faut que tu comprennes que ça, on peut pas compter dessus. C'est-à-dire, tu peux pas être là et dire, bon, écoute, j'attends que Dieu m'envoie le signal, que Dieu me propulse, que Dieu m'envoie les feux aux poudres, et là, j'avancerai. Ça marche pas comme ça. Si tu veux avancer dans la vie, il faut que toi, tu fasses un effort. Et c'est là qu'on va arriver à l'idée du programme. Programme, comment avancer. Parce que, il y a des gens qui sont là à attendre que ça se passe. Dis-moi, écoute, moi je suis là, bon, on va attendre que ça se passe, pourquoi pas, s'il y a un truc bien, si ça décolle, pourquoi pas, tant mieux, sinon tant pis. Tu dis à Morazaka, il te dit, il est vrai, certes, que parfois, Akadosh Baruch Hu, il a pitié de toi, et il t'envoie un boost. Vous savez, c'est comme les jeunes, ils disent, dans les jeux, les jeunes, ils parlent de boost. Vous savez, c'est quoi un boost? Des fois, par exemple, enfin, moi je connais pas,
ils m'ont expliqué. Hein,
non, comment ils m'ont dit, ils m'ont sorti là, je vous dis. Comment ils m'ont dit, attends.
Level.
Non, pas level. Ils m'ont dit le mot, ils m'ont dit nitro.
Ah oui, trop seul. Vous.
C'est quoi, je dis quoi, une sorte nitro. C'est quoi Nitro?
Ça ah. Nitro, c'est un.
Alors attends, je t'explique ce qu'ils m'ont dit. C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas comment ça fonctionne. Non, mais je suis dans. Alors c'est quoi? C'est qu'en fait, t'es là en train de faire une course de voiture ou quoi, je sais pas quoi. Et tout d'un coup, t'as gagné quelque chose. T'es passé, t'as réussi, t'as gagné des points. Et là, on te donne une aide. Cette aide, c'est le Nitro. C'est quoi le Nitro? Ça veut dire que tout d'un coup, t'es propulsé à. Tu les laisses les autres sur le carreau.
Un booster.
D'accord? Un booster. C'est une aide qu'on te donne. Une aide qu'on te donne pour laquelle t'as pas travaillé, on te donne une aide. Alors, parce qu'on parlait de ça avec les jeunes. Et donc, en fait, c'est la même chose. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il t'envoie des nitros. C'est-à-dire, t'es là, tu vois, t'as rien fait de particulier, tout va bien. Bah, tout d'un coup, tu sens que t'as un moteur, tu sens que t'as un boost. Mais on peut pas compter dessus. Et si tu veux avancer, il faut aller step by step, étape par étape. Comment on avance étape par étape? Quels sont les outils que nous avons pour avancer étape par étape vers la Kadosh Baruch Hu? Là, il te dit. Aval, mais. Adam Atarton, l'homme inférieur. C'est qui l'homme inférieur? C'est nous. Je suis à la page 258. Tsarir l'élère mi madrega les madrega. L'homme inférieur doit avancer de degré en degré. Step by step. De degré en degré. Mimata lemala, de bas en haut. Si on prend l'exemple d'une échelle, ok, dans une échelle, on va imaginer une échelle avec, par exemple, avec 20 échelons.
20 marches.
Pour arriver à la 20e marche, il faut passer par la première, par la deuxième, par la troisième, par la quatrième. Maintenant, des fois, on va faire des larges enjambées. On va dire, bon, je vais monter deux par deux. C'est compliqué. Tu risques de casser la figure. Imaginons. Bon. Mais tu peux pas monter directement de 0 à 20. Ouais, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est que quelqu'un qui est en haut, qui est déjà à 20, il te dit, tiens, je t'envoie une corde, attrape-toi à la corde, pfff! Et en une seconde, il t'élève au 20. C'est possible. Mais est-ce que tu peux compter dessus? Non. Toi, dans la vie, tu vas avancer, il faut monter étape par étape. Étape par étape. C'est une base dans la vie. Et c'est une base dans la teshuva aussi. Pourquoi c'est très important de préciser ça? Quand on demande aux gens, on leur pose la question, on leur dit, d'après vous, c'est quoi la teshuva? Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un cours dessus, ça fait quelques mois, quand on a commencé à guérir la teshuva, et je vous avais posé la question, il y avait plusieurs types de réponses. J'ai posé une des questions que j'ai posées, je vous ai dit, comment vous imaginez la teshuva? C'est quoi la teshuva? Est-ce que la teshuva, c'est un boost, une personne fait un switch, d'un coup, qui change complètement, métamorphose? Ou bien la teshuva, c'est une progression de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour dans la vie de tous les gens. Dans la tête de beaucoup de gens, lorsqu'ils s'imaginent un Baal Teshuva, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Ils s'imaginent une personne qui tout d'un coup a vu la lumière et maintenant, on le retrouve, Yeshiva Meacharim. Ah, celui-là, il a fait une Teshuva exceptionnelle. T'as dit l'Admor HaZaken, c'est vrai que c'est une Teshuva de haut niveau, mais c'est pas ça la Teshuva qu'on attend de l'homme. La Teshuva qu'on attend de l'homme, c'est pas une Teshuva passive. Ce n'est pas une Teshuva dans laquelle Dieu fait le travail. Non. C'est une Teshuva Midarga Ledarga. Midarga, mi madriga, les madriga. De niveau en niveau. On avance petit à petit. Mi mata les mala. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Ils commencent, ils faisaient rien du tout. Ils faisaient pas Shabbat. Bon. Ils viennent une fois à la synagogue. Ils vont venir une fois. Voilà. Tu dis, en général, bon, chez les Ashkenazim, c'est plus facile de convaincre pour venir vendredi soir. Chez eux, vendredi soir, c'est très important. Bon. Dans le monde sfarad, en général, quand tu veux convaincre quelqu'un de venir à la synagogue, tu lui dis samedi matin. Donc, une fois samedi matin. Pose pas la question comment il est venu, comment il est reparti, la kippa était dans la poche, t'es pas dans la poche, qu'est-ce qu'il avait dans la poche? Il avait un portable, il était un vibreur, il était un cendrier, etc. Pose pas la question. Mais il est venu.
Il est venu quand même. Il a fait un pas.
Il a fait un pas. Il a fait madriga. Il est monté
d'un cran.
Il a monté d'un cran. Il est monté à l'échelon numéro 1. Après, et je le vois, j'ai plusieurs fois de mes yeux avec la contre-expérience que j'ai. Après, tu vois, il prend goût. Alors, il vient un peu plus. Il vient un cours. Après, il vient un mindra. Après, etc. Petit à petit, après, à la fin, il est chômeur Shabbat. Donc comment il est devenu Shomer Shabbat?
La première fois.
C'est pas que non. Voilà, c'est pas qu'il est venu les Khatrila et qu'il a dit ça y est, je suis Shomer Shabbat, j'arrête tout. Pac. D'accord. C'est pas qu'il est venu et qu'il a dit ça y est, je suis Shomer Shabbat, j'arrête tout. Non, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Comment ça s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé step by step, petit à petit. Et c'est la même chose. Des fois, on veut faire avancer notre femme, nos enfants, dans la Torah, dans les mitzvot, etc. Et on est dans une génération où on veut des résultats rapides. Génération McDo. C'est ce que génération McDo? Les gens, ils rentrent au McDo, ils ont faim, ils veulent manger tout de suite. C'est-à-dire que tout est programmé là-bas pour la durée depuis que tu as commandé jusqu'à que tu es servi, tu n'as pas excédé à 2 minutes. En 2 minutes, tu dois être servi.
Pourquoi c'est parti?
C'est-à-dire que, après, tu as un plat sophistiqué, il faut plusieurs minutes. Mais c'est-à-dire c'est calculé pour que.
La pizza, c'est 6 minutes.
Il y a plus que ça encore. Non, mais vous savez qu'il y a plus que ça.
Next.
Ils ont carrément. Bon, hein. Je sais pas s'il y a ça en France.
Des bornes.
Voilà, des bornes.
Non, oui.
En voiture. C'est-à-dire tu passes en voiture.
Drive,
voilà.
Même les bornes maintenant de commande aux entrées.
Ouais.
C'est-à-dire tu passes.
Je suis déjà passé devant un magasin.
Ah oui, on voit. Mais c'est quoi les drives? Ils appellent ça Mac Drive, je crois qu'ils appellent ça. C'est quoi un drive? C'est que, Birlev, tu sors pas de ta voiture.
Ah oui, carrément, oui.
T'es dans ta voiture. C'est-à-dire, t'as une allée, ça va durer 3-4 minutes. Au début de l'allée, tu fais ta commande. Et à la fin de l'allée, t'as déjà reçu ton truc. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils veulent des résultats rapides. C'est comme ça. Aujourd'hui, on est une génération, on veut des résultats rapides. C'est-à-dire, j'ai une information à avoir. Tac, je sors mon téléphone, je l'ai tout de suite. Réga qui m'aimera, un instant. Mais il faut savoir, dans la vie, c'est pas comme ça. Tu n'as pas été fait en un jour, tu as été fait en 9 mois. Petit à petit. Il n'y a pas de bébé qui sort en un jour. Et même quand tu es sorti en tant que bébé, tu n'étais pas un enfant, tu n'étais pas un adulte en un jour. Tu as pris 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça monte, ça pousse, etc. On ne peut pas sauter les étapes. Et quand tu dis ça, ça ne marche pas. C'est ce que dit le Morazaken. Le Morazaken te dit, mes madrigas, les madrigas, de niveau en niveau. N'attends pas les résultats rapides. Prends ton temps. C'est pas grave. On n'a pas réussi maintenant, c'est pas grave. Qui a dit que tu dois être à l'échelon numéro 20? Petit à petit. Et dit l'Admor HaZaken, il va expliquer comment nous on croit dans ce cas-là, on dit, ah, bon, mais d'accord, je veux bien, mais j'ai pas fait une teshuva de haut niveau. Parce que tu vois, j'ai fait une teshuva qui était lente, une teshuva qui était progressive, qui était pas rapide. C'était pas une teshuva avec un nitro. L'Admor HaZaken te dit, sache que ça s'appelle une teshuva ila. Ça s'appelle une teshuva de haut niveau. Pourquoi? Seulement, au lieu de prendre un jour, comme c'est passé chez l'autre qui a eu une aide divine, chez toi, elle a pris 2 ans, elle a pris 10 ans. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Dilad Mourazaken, hi prinat shuva ila'a, veidabkud rucha berucha be kavanat halev bitfila. Mourazaken donne un exemple. Il dit, toi quand tu imagines la teshuva, tu imagines des choses compliquées. Tu imagines quelqu'un, il va tout arrêter, il était avec une Goya, une super situation, il a tout arrêté, il est parti à Meacharim, la Yeshiva, papa, etc. Il a tout changé, on ne le connaît plus, il ne parle plus français. T'as plus français, il a pas de portable injoignable, il n'existe plus, une nouvelle personne, d'accord, non, etc. Quoi?
Un mec qui monte trop vite.
Bien sûr. Bon, ouais. Alors on te dit comme ça, on te dit non. T'as moins inquiété, pourquoi tu cherches des choses comme ça? Les choses simples. Kavanat halev bitfila. La kavana du cœur dans la tefila. C'est un exemple. En particulier, kriyat shema et bénédiction. C'est des choses simples. T'as été capable d'ouvrir ton sidour et d'essayer de comprendre un peu la traduction de ce que tu lis. Au moins un chapitre. Tu peux le faire, non? C'est pas compliqué. Le schéma. Un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes, petit à petit. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Yetzara, il te dit, ouais, mais c'est rien ce que tu fais. Tu vois, le Yetzara, il te dit, regarde, là-bas, il y a des gens, là-bas, en Israël, là-bas, il y a des gens, grosse pointure. Donc, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que t'as fait un schéma en 5 minutes, tu crois que t'as renversé des mondes? Là, c'est comme ça que le Yetzara, il t'attrape. Mais c'est faux. Tu dis, le Morazaken, mi madriga, le madriga. Étape par étape. On prend le temps qu'il faut. Et c'est la vérité. Vous savez quoi? Il faut être honnête avec nous-mêmes. Pour voir l'avancée que tu as fait, essaye de te rappeler de quoi tu avais l'air il y a 10 ans d'aujourd'hui. Et comme tu vas avoir beaucoup de mal, parce qu'on a du mal à voir ce qu'on était il y a 10 ans, prends une photo. Il y a des vidéos. Ressors une vidéo d'il y a 10 ans. Before, after. Avant, tu vas voir tout de suite. Hein? Alors, t'as pris quelques kilos, t'as pris quelques rides, t'as pris, etc. Quoi? Ah, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, HM nous a donné un outil qui s'appelle les photos. Mais quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, tu dis, c'est vrai, j'ai quand même changé. Tu vois, t'as changé. Est-ce que ça veut dire que c'est satisfaisant? C'est jamais satisfaisant. Mais on a fait du travail. Mais madriga, les madrigas. De niveau en niveau. Alors il continue. Il dit ici, donc il nous parle d'un exemple très simple. Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema. Kedelomar ve'afta, bechol levavcha, v'chol anshecha, bemet la'amito. Essaye de te travailler pour faire en sorte que lorsque tu vas faire ton schéma et que tu vas dire tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, que ce soit sincère. Que de toute ton âme, tu sens que tu es dedans. C'est possible, c'est pas des choses compliquées ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu ne veux pas te concentrer 5 minutes? 5 minutes. tout à l'heure. Combien on a dit Serge tout à l'heure, il y avait depuis 7h du matin jusqu'à minuit? 17h. Est-ce que tu peux te concentrer 5 minutes?
Même pas 3 minutes.
Même pas 5 minutes, 3 minutes.
Bah, tu peux,
ah, j'arrive pas, c'est impossible. Bah,
tu peux.
Tu peux. Ça me scolpe et je dis Tsara. Le Tsara, il te dit ouais, mais t'as vu ce que t'as fait après, t'as vu ce que t'as fait avant. C'est tombé. Ça vaut rien ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on lui répond? Il madriga, le madriga. Parce que tu crois que le bébé, il a appris d'un coup comme ça à manger, à marcher, etc. Mi madriga, le madriga. De niveau en niveau. Step by step. Step. Étape par étape. Il a envie de chanter Michel. D'accord? Ah. Donc, hein. Bon. Nous, il faut le chanter avec l'air du Tania. Ah, d'accord? Quoi? Non, il y a des gens qui te disent step by step pour voir comment je vais attraper une fille. Nous, c'est step by step. Comment je vais attraper Akadosh Baruch Hu? Tu comprends? C'est pas le même step by step d'une boîte de nuit et de, je parle pas de vous, hein, je parle de, c'est des chansons.
Non, pas du tout.
Non, j'imagine que c'est des chansons de boîte de nuit. Des trucs comme, voilà. Hein? Le step by step de la boîte de nuit, c'est comment je vais step by step vers la Avera. Le step by step. Bah oui, c'est ça, step by step. Et t'inquiète pas, t'as par étapes.
On
ne comprend
pas les paroles.
Ah, sûr, t'inquiète pas, les Nechama comprennent les paroles. Ouais. Il dit on envoie un soré, après on avance, après Awario, après quelle heure est-il, etc. Ouais. Et bah, c'est comme ça. C'est comme, ça, c'est les Tsara qui te parlent. Tsara te dit step by step. Moi, qu'est-ce que je lui réponds à Tsara? Step by step. Étape par étape. D'abord, je t'enlève une dent, après je t'enlève. Step by step. Ok? Vechen, pareil, on continue. Vehayu adevarima elle vedibar tabam. Liot varasham befiv behemet. Mourazaken continue, il donne d'autres exemples. Des choses qui ont l'air simples, mais qui sont en vérité très fortes. Il dit, quand tu t'imagines un tzadik, qu'est-ce que tu t'imagines? Il dit, ah, le tzadik, c'est une personne qui a été pris de l'amour d'Hachem. Quand il parle, c'est Hachem qui parle dans sa bouche, c'est un prophète extraordinaire. Bon. Ça, c'est un niveau, c'est un cadeau d'Hachem. Est-ce que nous, on est comme ça? Non, on n'est pas comme ça. Mais comment on peut essayer de reproduire un petit peu ça dans notre vie? Voilà. Concrètement. Concrètement, comment, step by step, je peux reproduire dans ma vie? Je suis à la page 259. Moi, Zakhane, tu dis, c'est très simple. Tu dis, regarde, tu vois, tu me parles de l'amour que le tzaddik éprouve vers Akadosh Baruch Hu. Il est vrai que le tzaddik éprouve cet amour toute la journée. Toi, tu peux essayer d'éprouver cet amour pendant 5 minutes. Et demain, 6 minutes. Et après-demain, 7 minutes. Je continue. Tu es en train d'étudier la Torah. Si tu arrives à te convaincre quand tu étudies la Torah que tu es en train d'étudier la parole d'Hachem et que les mots qui sortent de ta bouche quand tu étudies la Torah, c'est les mots d'Hachem, quelque part, tu es comme un tzaddik à ce moment-là. Alors c'est vrai que le tzaddik, tout ce qu'il dit, il mange, il boit, il parle, il dort, etc., tout c'est Hachem. On n'est pas à ce niveau-là. Mais peut-être que tu peux arriver un petit peu à ce niveau-là, au moment où tu as un livre de Torah devant toi et que tu lis, tu arrives à te convaincre sérieusement, Behemet, Behemet. Ça, c'est quoi Behemet? C'est-à-dire, vraiment, tu arrives à te convaincre, tu dis que je suis en train de lire une parole d'Hachem. Là, maintenant, la parole que je suis en train de lire, c'est une parole d'Hachem. Quand tu ouvres ton Shulchan Aruch, tu ouvres ta Mishnah, tu ouvres ta Gemara, tu ouvres ton Tanya, tu lis, tu dis, je suis en train de lire une parole d'Hachem, Behemet, vraiment. Alors c'est vrai que au début ça a l'air un peu bizarre, tu me dis pourquoi je me prends, je suis pas un tzaddik, moi je suis un juif simple, etc. Mais la Mourazaken te dit mais c'est comme ça que ça démarre, c'est des petites choses. Tu es là, tu fais une tefila, tu dis je sens que Akadosh Baruch Hu est avec moi. Tu es là, tu lis un texte de Torah, je sens que je suis en train d'étudier la parole d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y avait une en Russie, il y avait une yeshiva dans la ville de Nevels, et là-bas les chassidim ils étaient à un très haut niveau. Vous savez comment ils étudiaient la Gemara là-bas? C'est tout celui qui a étudié la Gemara, j'ai entendu parler de Abaye et Rava. Abaye et Rava. Abaye et Rava, c'est deux grands maîtres qui étaient toujours en discussion. Donc des fois, tu as plusieurs sujets, par exemple, hein, on te présente un sujet. Hein, quoi?
Je dis pas de télé ce soir.
Abaye, ah. Bah, comme il y a d'autres, disons, Laurel et Lardy, il y a Abaye et Rava, les Abdil, d'accord? Voilà, bon. Voilà. Donc, Abaye et Rava. Ok. Maintenant, comment on étudie, en général, on étudie la Gemara? Celui qui n'est pas tzaddik, comment il dit la Gemara? Il ouvre la Gemara, on te présente un cas, Abaye il a dit autorisé, et ça c'est ma raison, Rava il a dit c'est interdit, ça c'est ma raison. Bon, tu utilises ça comme un texte de loi. Comment il étudie la Torah à la Yeshiva à Nevel? Tu dis pas comme ça. Tu dis, Abaye il a dit, la volonté d'Hachem c'est qu'on fasse ça. C'est que c'est autorisé. Rava il a dit, la volonté d'Hachem c'est qu'on fasse pas ça. Donc c'est interdit. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté?
La volonté.
L'accent.
La volonté. Non, pas seulement l'accent.
Ah.
La volonté d'Hachem. C'est pas Abaye l'a dit autorisé, Rava a dit interdit. On a rajouté la dimension d'Hachem. Ça veut dire on a rajouté la dimension que Abaye n'est pas en train d'inventer quelque chose. Il est en train d'interpréter une parole divine. Il est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem veut. C'est pas Stam qu'on a mis dans un bêta midrash, dans une salle d'études des maîtres. On a dit bon, allez-y, on vous donne la Torah, comprenez comme vous voulez et mettez, et consignez vos discussions par écrit. Ils sont pas venus pour disputer. Ils sont pas venus pour défendre leur thèse. Ils sont venus pour essayer de comprendre quelle est la volonté d'Hachem. On se casse la tête pour comprendre quelle est la volonté d'Hachem. Et eux, ils sont persuadés à 100%. Mais si tu es arrivé, même un temps soit peu, un tout petit peu, à essayer de te convaincre, que lorsque tu étudies la Torah, qu'est-ce que tu étudies? La parole d'Akadosh Baruch Hu. Et bien à ce moment-là, tu t'imagines là maintenant, je suis en train de lire un mot de Torah, un mot de Tania, un mot de Trumash, c'est mamash, la parole de Dieu qui est dans ma bouche. Tu rentres chez toi à la maison tout à l'heure, tu vois, ta femme dit alors qu'est-ce que t'as appris au cours de Tania? Tu ouvres un livre de Torah comme ça, de Chumash, tu dis Vayomer Hashem, Moshe il est mort. C'est Dieu qui parle dans ma bouche. Maboul, là, qu'est-ce qu'il est devenu fou. Hein? Mais c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Dans ma bouche, je suis en train de dire une parole divine. Donc, tu vois, c'est intéressant ce chapitre, pourquoi? Parce qu'il te prend des choses simples de la vie de tous les jours. Autant dans le chapitre précédent, on te parlait de choses complexes, teshuvah, très haut niveau, attacher l'esprit avec l'esprit, enfin des mots très très forts. Là, le Morazakin, il te dit, en vérité, t'as pas besoin de faire des grandes choses comme ça. Ça, c'est quand t'as un cadeau d'Hachem, que t'arrives à faire des grandes choses. Mais en vérité, t'as la teshuvah progressive. Et tu peux, c'est possible, tu peux y arriver. Et je vous dis, on voit clairement devant nos yeux des gens qui changent comme ça. Tu vois, il y a 10 ans, ils ne savaient même pas lire, ils ne savaient même pas si c'était une synagogue. Pour eux, synagogue, je sais pas, ça voulait dire Kippour, ça veut dire Neila, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, Hachem, ils sont là aujourd'hui tous les jours. Comment tu expliques ça? Est-ce qu'ils ont fait ça step by step, étape par étape? Alors, je continue. Vechen, pareil. Les kayem kol mitzvot. Accomplir toutes les mitzvot. On va essayer de réfléchir. Par exemple, voilà. Ce soir, quelle est la prochaine mitzvot qu'on va faire ce soir? Deux mitzvot. Le Shema et le Omer. D'accord? Shema et le Omer. Donc, on va le faire. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà. On est d'accord? Donc, il y a un programme. Je le fais déjà dans mes messages. Je le fais. Maintenant, si je vais réfléchir, c'est quoi une mitzvot? C'est quoi le Shema? C'est quoi le Shema? Allez, on va réfléchir. C'est quoi le Shema? Pourquoi je fais le chemin? Ah, donc ça veut dire que j'ai reçu une injonction divine. Il y a Dieu qui m'a parlé, qui a parlé au peuple juif et qui a dit, chacun de vous lira le chemin. Donc quand je fais le chemin, je suis en train à ce moment-là de faire la volonté de Dieu. Maintenant, moi je vois pas comme ça. Ça veut dire que moi quand tu me dis, je dis je vais faire le chemin. Mais en vérité, quand tu prends un peu de recul, tu dis mais c'est quoi tu vas faire le chemin? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'accomplir la volonté divine. Donc, imagine-toi par exemple, tu rentres tout à l'heure ce soir à la maison, bon, t'auras déjà fait le schéma, mais tu dis, je vais accomplir la volonté divine. Tu me dis, ma boule, celui-là, quoi. C'est Dieu qui parle à ma bouche, je vais accomplir la volonté divine. Ouais, dis, bon, t'amènes la Sainte-Anne. Mais en vérité, c'est des choses qu'on fait déjà. Vous voyez, on se rend pas compte, mais je le fais déjà. La parole divine est dans ma bouche, je suis en train de dire un mot de Torah. La kavana dans la tefila, je vais l'avoir 5 minutes. Donc, j'ai Dieu qui est présent dans mon esprit. Accomplir la volonté divine, je le fais, je fais les mitzvot. Donc, c'est pas des choses que tu ne fais pas. Tu fais déjà. Mais il suffit d'accorder de l'importance à ce que tu fais déjà. Au lieu de dire, je fais mon schéma par routine, je vais accorder l'importance à ce que je fais. Alors, plein de mitzvot. Tu vas rentrer à la maison, tu auras une possibilité, par exemple, de rendre service à quelqu'un. C'est une mitzvah. Alors, tu peux dire, je vais rendre service à quelqu'un. Bon. Ou bien, tu peux dire, Hachem veut que j'aille rendre service à quelqu'un. Donc, je vais accomplir la volonté divine. C'est pas des choses compliquées. C'est des choses que tu fais déjà. Quand on prend une fête comme la fête de Pessah, une fête qui vient de se passer, mettez-vous dans la tête, essayez d'aller expliquer ça à un goy. Que pendant plusieurs semaines, on s'est pris la tête à éradiquer des miettes de pain qui se trouvaient dans la maison. Et qu'on a passé les aspirateurs, etc. Et qu'on a éradiqué les miettes de pain de la maison. Mais pourquoi vous faites ça? Tu dis, tu comprends, parce que nos parents, ils sont sortis d'Égypte. Ça fait 3300 ans.
Alors,
regarde,
c'est bon.
Tu dis, ah bon, et alors? Et voilà, donc nous aussi, on doit éradiquer, on doit pas laisser une miette, on doit retourner toute la maison. Qu'est-ce qu'elle pensait de toi, honnêtement? Ça me boule. Ça malade.
Il est déjà parti depuis longtemps.
Ah, tu dis après, tu sais, pendant 8 jours, on mange pas de pain. On mange pas de pain. Qu'est-ce qu'on mange? Ben voilà, on mange de trop chaud, on mange ça, on a un régime, etc. Ça, on mange de la galette, ça fait mal au ventre, ça fait ci, ça fait ça, etc. On mange quand même. Mais vous êtes malade. Vous n'êtes pas normaux. Maintenant, est-ce qu'à un moment, en faisant Pessah, je pensais que j'étais pas normal?
Pas du tout.
Est-ce que cette idée vous a effleuré l'esprit?
Non.
Pas du tout. Non. On l'a fait parce qu'on doit le faire.
Ouais.
Mais en vérité, on était là pendant plusieurs semaines à accomplir la volonté divine. Parce que finalement, pourquoi je fais tout ça? Parce que Hachem l'a demandé. Maintenant, c'est vrai que quand j'avais le balai dans la main, je n'étais pas en train de penser que j'accomplis la volonté divine. Je suis en train de penser, je suis en train de nettoyer. Donc, je n'y pensais pas. Mais dans les faits, dans la réalité, avec le balai dans la main, j'étais en train d'accomplir la volonté divine. Pour ceux qui ont fait le ménage. Peut-être certains n'ont pas fait le ménage. Alors bon, ils ont payé un séjour. Ils ont fait le ménage dans le compte en banque.
La volonté de ma femme. C'est pareil.
Hein?
Moi j'ai fait le ménage.
Ouais, t'as fait le ménage dans. Non, ou on fait le ménage à la maison, ou on fait le ménage du compte en banque. Faut un des deux.
Les deux, ouais. Ah, ça, tu peux le dire.
Ah oui. Mais en tout cas.
Faut se refaire maintenant pour les prochaines vacances.
Il reste pas beaucoup de temps. Puis ça arrive tard.
On a la Imouna. On a la poêle.
Qu'est-ce que je vous montrais avec ces exemples? C'est qu'en vérité, ce sont des choses qu'on fait déjà. Je ne te parle pas de quelque chose que tu ne fais pas. Je le fais déjà. Je le fais. Je suis là, je le fais. Donc, en vérité, nous, quand on croit que c'est des grands mots, oh, la parole de Dieu dans ma bouche, épris de l'amour de Dieu, accomplir la volonté de Dieu, Dieu, attends, doucement, ça va, je suis pas rabbin, doucement. On dit, mais en vérité, mais tu le fais déjà. Donc tu es déjà dans une démarche d'approche vers un Kadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, pourquoi je ne suis pas un tzaddik? On dit, ok, personne n'a dit que tu dois être un tzaddik. Tu montes étape par étape. C'est-à-dire, si tu arrives à la conclusion qu'aujourd'hui tu es un peu mieux qu'hier, c'est bien. Tu peux toujours être encore mieux, mais c'est déjà extraordinaire. Aujourd'hui, je suis un peu mieux qu'hier. Si je me compare aujourd'hui par rapport à ce que j'étais l'année dernière, ben, j'ai avancé. Là, c'est bien. Alors c'est vrai qu'à 200 marches, eh ben je suis déjà à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, à la dixième, et alors on a monté, on s'est approché d'un pas de plus. Donc c'est très rassurant comme chapitre. Surtout le plus grand chidouche, c'est que l'Admor HaZaken qualifie cette avancée progressive de Teshuvah Ilaha, Teshuvah de haut niveau. C'est un grand chidouche. Parce qu'on aurait pu dire, bon, t'as les gens qui, les gros bolides, qui avancent en un jour, ils font tout, et t'as les quatre L. Le quatrième, c'est
les deux chevaux
qui sont là, un qui avance, etc. Bon, même si on est. Lui, il est en train de faire 4 tours, tu vois, et l'autre, il est là en train, il n'a pas encore fait le premier tour. Une fois, Serge, il m'a envoyé une vidéo. À l'époque, je ne sais pas, il n'envoie plus de vidéos maintenant. Une fois, il m'a envoyé une vidéo. J'ai pas le temps de le regarder toujours, honnêtement. Mais intéressant. Une fois, il m'a envoyé une vidéo, tu vois une Ferrari.
Une
Formule 1, c'est quoi, hein?
Ouais. Il y a une petite Fiat de sport.
Voilà.
Il y a un premier pilote qui prend un pilote de Fiat, il commence à avancer. Et après, bon, une minute après, il y a un autre pilote qui prend une Ferrari, carrément, une 200. C'était une Maranello.
Ça ne changera pas comme vous dites.
Il tourne avec. Et il y a.
Et l'autre, il est là. Il est en train de faire. Il démarre pas, tu vois. Presque il fume, tu vois.
Son journalateur, il jette son journal, il monte la voiture. Il démarre et il dépasse tout le monde juste à la ville. Donc il est en Formule 1, mec, ça va.
C'est comme le lapin et la tortue, hein.
Voilà, voilà.
Ils font la course, il a dit le premier à la maison. La tortue, elle rentre dans le
jeu, elle a gagné. Il a calculé à quel moment il devait partir pour arriver à la ligne d'arrivée juste avant. c'est un Bon, donc vous voyez, c'est des choses qu'on fait déjà. Seulement quoi? Le Tzahara, il te dit, comme tu n'avances pas très vite, tant que tu n'avances pas. Moi, je réponds faux. J'avance à mon rythme, mais j'avance. Donc, ça s'appelle une avancée. Okay. On continue. Iprinat, donc Vechen, pareil. Je suis à la page 259. Troisième paragraphe. Vechen, pareil. Les Kayem Kola Mitzvot. Donc, pareil. L'accomplissement de toutes les Mitzvot. Comme moi, j'ai Katou. Asher ki deshenu mizotav, okmo, areat mekudeshotli. Quelle bénédiction vous récitez avant de faire une Mitzvah? Asher, Baruch Ata, Hashem Elokim Melech Haolam. Asher, allez, on va traduire ensemble la bracha. Vous allez voir comment c'est extraordinaire. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi du monde. Bon, d'accord. qui nous a
sanctifié
par ses mitzvot.
Commandement,
la même chose. Qui nous a sanctifié par ses mitzvot. C'est qui nous?
Nous.
Nous. Et c'est quoi sanctifié?
Attaché.
Bah, sanctifié, c'est rattaché, c'est-à-dire qu'il nous a séparés, il nous a sanctifié. Donc de qui tu parles en fait? Tu dis qui nous a sanctifié, mais c'est qui, de qui tu parles? C'est qui nous?
Les juifs.
Non mais c'est qui nous? C'est moi.
Ah oui. Ah oui. Nous,
donc c'est-à-dire que je suis en train de dire que Dieu, il m'a sanctifié par la mitzvah.
Il considère.
Donc ça veut dire que...
Bah
oui.
Sanctifié, c'est
quoi? Ah ben bah, justement, ça tombe bien, c'est la paracha de cette semaine, la paracha Kedoshim, qui veut dire sanctifié. Tu comprends? C'est-à-dire, imagine-toi par exemple, quelqu'un tout à l'heure, il va faire le schéma. Après le schéma, il va dire, bah, je suis saint. On va dire, saint, ouais. Ça va, mollo, d'accord? Doucement. Mais c'est la vérité. Asher qui déchanou, des mitzvotam. Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot. Donc c'est la réalité, ça s'est passé.
Kedoshim
tiyou, soyez saint. Maintenant, tu as posé une question, Serge.
Rendre saint, ah oui. Non.
Mais c'est quoi saint? C'est quoi être saint?
Le dire Rashi, réponds à la question.
C'est quoi saint? C'est quoi être saint?
Être pur, propre.
Ah non, pur, c'est pur. Saint, c'est saint.
Rashi répond à la question.
Saint, t'es kadosh.
Hein? C'est quoi saint?
Attaché, c'est
saint. Non. Attaché, c'est attaché. Saint, c'est saint. C'est
honnête,
non.
Saint,
non.
C'est la sanctification de Dieu.
Oui, mais tu votes en touche, là.
Comment?
Tu votes en touche. Tu dis, c'est quoi saint? Il est la sanctification de Dieu. Mais c'est quoi la sainteté?
Eh ben, c'est séparé.
C'est divin en nous.
C'est séparé.
La Gemara Zaken ici nous donne la définition précise. C'est quoi Kodesh? Ou Prinat Kodesh Elen, la chaîne Prishut Veavdala. C'est séparé.
Voilà.
Séparation. Ça veut dire que Dieu nous a séparés par ses mitzvot. Séparés dans le sens qu'on est une ligue à part.
Séparés de la faute.
Tu comprends? C'est comme quand j'ai une ligue. C'est comme par exemple dans les joueurs, tu vois. T'as les joueurs classiques et t'as un autre geste. C'est une autre ligue.
Tu peux le dire, ça.
D'accord.
Il est champion.
On peut même pas comparer.
Oui, c'est
on peut pas comparer. On peut pas dire. On peut pas dire. Il y a lui, il y a les autres. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une autre ligue.
L'équipe première et la deuxième.
Voilà. Asher, qui déchanou? Qui déchanou, ça veut dire quoi? Séparer. Dieu, il nous sépare. Avec quoi il nous sépare? Avec ses mitzvot. C'est-à-dire que lorsque je fais une mitzvah, je deviens un homme d'exception. Maintenant, tu dis, attends, mais quel mitzvah je dois faire pour être ça? Tu dis, c'est pas compliqué. Des petites mitzvot que tu fais tous les jours. Tu vas faire le schéma, là, dans un quart d'heure. Le schéma que tu vas faire, tu es devenu, en faisant le schéma, tu es devenu un homme saint. T'es devenu un homme d'exception. Tu viens de le dire. Asher qui déchanou ma mitzvotav. On va faire le savant la Homer. Béni soit l'Éternel qui nous a séparés, qui nous a rendus des hommes d'exception par ses mitzvot et qui nous a ordonné de compter le Homer. Je vais faire une racha. Donc je vais le dire. C'est la traduction de ce que je vais dire. On va tous le dire. Mais quand tu réalises la traduction de ce que tu dis, tu dis, mais attends, on parle de moi là. Oui, on parle de toi. Tu viens de faire une mitzvah. Tu viens de devenir un homme d'exception. Donc à ce moment-là, t'es devenu comme un tzaddik. Alors je dis pas ça pour qu'on se suffise. On dit bon bah c'est pas mal. S'il suffit de faire le homer pour être un tzaddik, alors c'est bon, pas mal, tu vois. On fait le homer et tant mieux. Tu vois bien.
Mais toute personne qui ferait la phrase complète. Là,
non.
Il devient
la phrase n'est pas là pour te rendre kadosh. La phrase est là pour expliquer ce qui se passe lorsque tu fais une mitzvah. C'est un
quand
texte.
Si t'es saint, c'est là que tu l'as dit. Si tu crois.
Non, mais c'est pas parce que j'ai cité que je viens kadosh. Dans la phrase, je ne fais qu'expliquer ce qui se passe lorsque je fais une mitzvah.
Alors, quelqu'un qui ne serait pas juif, qui dirait, il serait.
Non, ça non. C'est comme si tu mets de l'essence dans une carcasse. Elle ne va pas rouler. L'essence dans une Ferrari, elle va pas rouler. Voilà. Tu vois, t'as beau, il faut avoir le.
Des Ferrari alors.
Eh oui.
Mais des bolides.
Il faut avoir le moteur qu'il faut.
Step by step.
Hein? Step by step. David.
Arrêtez le.
Bon.
Cinéma,
donc,
ah, c'est football ça, le football, match de foot, ça va dire.
Bah, il est venu, il a prévu de venir en cours, il est venu au cours.
Zach,
voilà. Zach, David.
Zach, ouais, bon,
il a préparé Zach. Et tout. Voilà, bon, Rachel, il a
préparé. Ouais.
Il a pas programmé de dormir.
Non. J'ai pas programmé.
Razak.
Imagine le gars, il vient au cours, il programme de dormir.
Il se repose pour le coup.
Il arrive, tu vois, le coussin, pas comme ça. Et que, comme en classe, tu vois. T'as des élèves, ils arrivent en classe, tu vois. Khatrila, il est arrivé, il a mis ses aises, il a mis un bon pull, tu vois. Il s'est mis à côté du chauffage. Ça, c'est pas qu'il s'est endormi.
Il est venu pour dormir.
Il est venu pour dormir. Il y avait des numéros dans les classes.
Ah, vous, c'est bon.
Chauffage.
T'as pas connu le chauffage, toi?
Oui, c'est vrai.
Hein?
Près du radiateur. Près du radiateur. Tu vas où toi?
Le gosse est venu, il a rien dans son carton. Ouais. Il est sorti un livre au hasard, tu vois, il pose le livre.
Il a une feuille et un crayon.
Ouais, la
feuille. Il s'en fiche, il a un cahier. Il a un cahier, c'est le même depuis le début de l'année. Il venait avec son pull, et même qu'il gardait son manteau, tu vois. J'ai froid. Bon, revenons aux choses sérieuses. Ça veut dire que dans la vie, en vérité, ce que veut dire le Morazaken, c'est que toi, tu crois. Toi, tu crois qu'il faut faire des choses extraordinaires, alors qu'en vérité, ce sont des choses que tu fais déjà. Tu fais déjà. Tu manges kasher, c'est une mitzvah. Tu mets les tefilines, c'est une mitzvah. Tu fais Shabbat, c'est une mitzvah. C'est les mitzvahs, tout ça, que tu fais déjà. Donc, c'est la réalité, en vérité, tu es déjà en train de t'attacher avec Akadosh Baruch Hu. La parole, Dieu est dans ta bouche. Ça se passe maintenant, ça se fait. Seulement, on se rend pas compte. Le tsar, il t'endort, il dit, ouais, non, mais bien sûr, tu fais, mais bon, tu fais, c'est la routine, c'est bêtise. Qu'est-ce que ça change? Il y a un machal qui est ramené sur ça dans le Tania, dans le chapitre 3. Tu dis, celui qui fait une mitzvah, c'est comme si qu'il enlace le roi. Comme ça, c'est écrit. Parce que quand tu fais une mitzvah, tu embrasses Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il dit, est-ce qu'il y a une différence si tu enlaces le roi, alors que le roi porte 5 vêtements, 1 vêtement ou 100 vêtements?
C'est pareil.
C'est pareil. Alors, c'est vrai que si tu enlaces le roi et qu'il n'a que 3 vêtements, tu vas sentir que tu l'as enlacé. Si tu enlaces et qu'il a 100 vêtements, finalement, tu ne sens plus.
Oui.
Mais ce n'est pas parce que tu ne sens pas que tu n'as pas enlacé le roi.
Oui.
Tu as enlacé le roi. Dans l'absolu et dans la réalité, tu as enlacé le roi. C'est un machal que donne Admorazaken pour expliquer la différence entre les tzadikim, donc les gens hors du commun, et les gens normaux. Le tzadik, si tu veux, quand il enlace Akadosh Baruch Hu, c'est comme quelqu'un qui enlace Akadosh Baruch Hu avec 2-3 vêtements. Donc il sent tout, il sent ce qui se passe. C'est pour ça que, vous savez qu'il y a des tzadikim qui, avant de réciter la bracha du Homer, ils attendaient 10 minutes. C'était en transe. Partant en transe. Ou bien avant de réciter le schéma du soir, comme ça, c'était en transe. Alors les élèves disent, mais qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Ils disent, mais tu t'imagines, je vais faire la volonté de la chaîne? Partant en transe. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple d'une personne qui enlace le roi et qui sent qu'il enlace le roi. Est-ce que nous, on est à ce niveau-là? Non. Mais ça n'empêche pas que quand on fait une mise en, on enlace le roi. C'est la réalité. Donc je le fais déjà. C'est pas des choses bachamaïm, c'est pas des choses dans le ciel ce qu'on est en train de dire. C'est des choses qu'on fait déjà. On te parle pas d'envoyer une sonde Bereshit sur la Lune. Tu le fais déjà. Tu es déjà en train de le faire. Il suffit d'accorder de l'importance à ce qu'on fait et automatiquement on découvre que, en vérité, on est dans le coup beaucoup plus qu'on le pense. Ça, voilà, va réaliser ça maintenant. Qu'en l'espace d'une heure là, jusqu'à tout à l'heure, tu vas t'attacher avec Dieu, tu as la parole de Dieu dans ta bouche, et là maintenant vous êtes en train d'écouter un cours de Torah. Donc ça veut dire que vous avez des mots de Dieu qui sont dans votre tête, dans votre bouche. Si vous parlez, ou dans votre tête. Non, mais ça veut dire que c'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire. Donc là maintenant, dans mon cerveau, il y a des mots de. Il y a la parole de Dieu qui est dans mon cerveau. Maintenant, moi, je réfléchis pas comme ça. Je me dis, bon, je suis venu à un cours de Tania, on a écouté, c'est comme ça, quoi. On a écouté un cours de Tania. Mais quand tu réfléchis, tu dis, mais attends, ça veut dire que j'ai la parole de Dieu qui est dans ma tête, dans mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau est occupé par la parole de Dieu. Et après, l'information que j'ai écoutée au cours d'aujourd'hui, je la garde dans ma mémoire. Dans cette mémoire, elle va rester combien de temps dans ma tête?
Ça dépend.
Ouais. Peut-être qu'elle va rester un jour, deux jours, en vérité, elle reste toute la vie. La preuve, c'est que des fois, il y a des gens, par exemple, qui, des fois, 50 ans plus tard, ils croient qu'ils ont oublié quelque chose et ça leur ressort. On voit ça avec les personnes âgées. Tu ressors des trucs que tu pensais oublier complètement. Elle était où, l'info? Elle était là. Donc ça veut dire que dans ma mémoire, d'accord? Donc ça veut dire que on a étudié. Maintenant, t'as écouté combien de cours de Torah t'as écouté depuis que t'es jeune? Des milliers de cours de Torah, des mots de Torah, des milliers. Toi, tu crois que tu les oublies? Tu dis bon, si on dit qu'est-ce que tu te rappelles? Je suis incapable de te répéter. Mais c'est dans ta tête, c'est là. Ça veut dire que dans mon cerveau, il y a des paroles divines. Maintenant, la Torah, c'est Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a Dieu qui est dans ma tête. Mais on réfléchit pas comme ça. Personne réfléchit comme ça. Ça fait peur de réfléchir comme ça. Ça rend fou. Tu dis, mais attends, doucement, je finis un cours de Torah. Voilà, après, je referme le livre et. Voilà. Mais bon. Tu dis non. Tu dis, c'est ce qui s'est passé. Sauf que la seule différence entre le tzaddik et toi, c'est que le tzaddik l'a ressenti, toi, tu l'as pas ressenti. Mais ça s'est passé. C'est la réalité. Ok? Je continue. Donc. Je tourne la page 260. Et tout cela se passe par quoi? Tout ça se passe par un seul élément. Il y a une seule clé pour tout ça. Tout ce que je viens de dire, il y a une seule clé. C'est quoi? Idbonenut. C'est quoi Ibn Hanout?
La réflexion.
La méditation. C'est-à-dire, je te parle de choses que tu fais déjà. Mais il faut méditer à ce qui se passe. Et quand tu médites, automatiquement, les choses prennent une dimension complètement nouvelle. C'est-à-dire, dans l'été, on fait ce qu'il faut. Bah, oh, Hachem, tu es là, tu es levé ce matin, tu as fait ta prière, tu es parti travailler. D'accord? Alors, maintenant, est-ce que quand tu es parti travailler, tu avais le sentiment, je vais aller faire la mitzvah de nourrir une famille? Est-ce que tu pensais à ça ce matin quand tu vas travailler? Pas du tout. Tu pensais, bah, je vais travailler, c'est tout. C'est-à-dire qu'on réfléchit pas trop à ce qu'on fait finalement. On fait ce qu'il faut et c'est tout. Je fais, voilà, j'ai fait, je suis parti travailler.
On comprend pas bien ce terme. Ça revient pratiquement dans tous les chapitres.
De quoi?
Bah,
là, Ibn Hanout, c'est justement. On comprend pas bien ce qu'on te dit, c'est en fait prêter attention. On n'a pas du tout l'habitude de réfléchir à ça. Parce qu'on est dans un monde où on nous habitue à être le plus mécanique possible. On t'habitue à faire des choses, faire. En français, on n'aime pas le verbe faire. Parce que le verbe faire est un verbe qui n'est pas clair.
On est conditionné.
Hein, par exemple, on dit par exemple faire Shabbat. C'est quoi faire Shabbat? C'est quoi faire? Je fais quoi? Dis-moi respecter le Shabbat. Dis-moi honorer le Shabbat. C'est quoi faire? Faire. C'est quoi surtout à l'écrit, hein, en France, à l'écrit, on ne supporte pas le verbe faire. Parce que faire, c'est pas concret. Ça ne veut rien dire. Un courrier qui est bien rédigé, il ne faut pas utiliser le mot faire. Des fois, on n'a pas le choix. Mais normalement, tu ne dois pas utiliser ce mot. Parce que c'est un mot qui n'est pas clair. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous habitue dans ce monde aujourd'hui à être le plus mécanique possible, à faire les choses. Je fais. Voilà, je fais la mitzvah, j'ai mis les tefillines, etc. Ça, tu te rends pas compte, tu viens de passer une grande journée dans laquelle tu t'es connecté à Dieu. Combien de mitzvahs t'as fait aujourd'hui? Combien de mitzvahs j'ai fait aujourd'hui? Depuis ce matin. Alors, on va réfléchir ensemble. Combien de mitzvahs j'ai fait aujourd'hui? Hein? La tefillah. Avant la tefillah encore.
Modani.
Ah,
c'est mitzvah.
Mais c'est quoi ça? C'est quoi alors Modani? Quand j'ai fait Modéani, à qui j'ai parlé? J'ai parlé à mon créateur, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit, merci Hachem de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait redescendre encore une fois sur terre. Je vais assurer aujourd'hui. Je l'ai dit en hébreu. Maintenant, est-ce que je pensais à ce que je disais? Je ne sais pas.
J'étais dans les vapes.
J'étais dans les vapes, Modéani Fanecha. Donc si tu veux, dans la tête des gens, Modéani, si tu veux, c'est comme un bonjour, tu vois. C'est comme une façon de dire, je suis fatigué. Au lieu de dire, je suis fatigué, dis Modéani. C'est la même chose. Mais en vérité, si tu réalises les mots que tu dis, tu comprends que tu es en train de parler à Dieu, là. Tu dis, je dis merci Hachem. C'est comme le Rav Stenzel, ce Rav Ben Israël, dans son commentaire sur le Tania. Il dit, il y a des gens, par exemple, tu leur dis comment ça va, ils te répondent Baruch Hachem. Mais alors, Baruch Hachem, en vérité, il veut dire, fous-moi la paix.
Non, ça veut dire que tu veux. Ça va bien ou que ça va mal, tu vas
changer
quoi dans ma vie.
Attends, ça veut dire, est-ce que tu as réalisé la traduction de ce que tu as dit? Le gars, il te pose la question, comment ça va? Tu lui réponds, Baruch Hachem.
Tu veux dire quoi?
D'accord? Baruch Hachem. Non, mais attends, ça veut dire quoi, Baruch Hachem? Ça veut dire, je bénis Dieu!
Baruch Hachem, ça va mal, tu peux dire.
Non, mais bien sûr. Mais est-ce que t'as réfléchi une seule seconde que lorsque tu disais Baruch Hachem?
Je crois que c'est le seul mot où on a la cabane.
Ah, mais est-ce que tu réfléchissais que lorsque tu disais Baruch Hachem, t'étais en train de dire Dieu merci. Dieu merci.
Bah oui, c'est ça.
Des fois, un Baruch Hachem, du style, le gars il dit comment ça va? Voilà. Ça va? Ce que je veux dire par là, c'est que ici, la Gemara Zaken te parle de l'importance de Ibn Hanout. C'est quoi Ibn Hanout? Prêter attention à des choses qu'on fait déjà. On te demande pas de faire quelque chose de nouveau. Tu le fais déjà.
Avec Kavana.
Comme tout à l'heure, chez lui, Serge. Chez lui, ce matin, quand tu es parti travailler, est-ce que tu avais la Kavana? Je vais aller pour faire la mitzvah de nourrir ma famille. Non, pas du tout. Mais en vérité, c'est la réalité. C'est comme ça. Je vais illustrer ça avec une histoire. Rabbi Shneur Zalman, l'Admor HaZaken, l'auteur du Tania, une fois, il devait chercher un professeur pour son fils. Professeur pour son fils. Son fils est en train de grandir, il fallait chercher un professeur. Et maintenant, comment tu veux chercher un professeur? À l'époque, il n'y a pas d'école comme aujourd'hui. Il fallait prendre un prof privé. Comment quelqu'un de normal aurait fait ça? Il peut avoir un prof, il lui dit, bon, combien tu prends? Tu prends ça, je te paye tant, peut-être on négocie un peu. Je te paye. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu enseignes la Torah à mon fils. Le Morazakan, il l'a pas présenté comme ça. Comment il l'a présenté? Il est parti voir le professeur, il a dit comme ça. Il lui a dit, toi, tu as une mitzvah de nourrir ta famille. Moi, j'ai une mitzvah d'enseigner la Torah à mon fils. Viens faire un échange de mitzvot. Moi, je nourris ta famille, et toi, tu enseignes la Torah à mon fils. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, c'est la réalité, de toutes les façons. C'est vrai. Nourrir sa famille, c'est une mitzvah. Enseigner la Torah à son fils, c'est une mitzvah. Mais moi, j'aurais pas vu la chose comme ça. Moi, j'aurais vu, bon, bah écoute, combien ça coûte? Combien ça coûte? Je te paye, tu fais ce qu'il faut, voilà quoi. Tu fais faire, encore une fois, le verbe faire. Fais ce qu'il faut. Mais la Morazaka, elle te dit non. Tu dis, moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, je fais les choses en mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, il y a une injonction divine, tu vois. Dieu, de toi, il attend que tu nourrisses ta famille. De moi, il attend que j'éduque mon fils. Maintenant, moi, j'ai pas le temps d'éduquer mon fils, et toi, tu n'arrives pas à nourrir ta famille. Donc, on va essayer de faire un croisé, d'accord? Hein? Quoi? Un deal. De dire, ben voilà, ce que Dieu voulait pour toi, ça passera par moi, et ce que Dieu voulait pour moi, ça passera par toi. Et on réfléchit pas comme ça, mais c'est la réalité. Quand tu payes la scolarité pour les enfants, c'est ce que t'es en train de faire. Maintenant, est-ce que tu vois les choses comme ça? Non. Mais si tu réfléchis un peu, c'est ce qui se passe. Ça, c'est le chidouche que va te dire Admor HaZaken. Il va t'expliquer ici un chidouche que quand tu as la bonne idbonelut, quand tu as la bonne réflexion, quand tu apprends à prendre du recul, à réfléchir, des choses que tu fais déjà prennent une autre dimension. Et des choses simples que tu fais déjà prennent une autre dimension. Tu entends, Serge? Oui. Quand tu vas rentrer ce soir à la maison, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme?
Il peut dormir. Hein,
hein. Je réfléchis que je vais me regarder.
Voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux lui dire?
Il va la réveiller.
Tu veux lui dire, je suis un homme sain? Tu veux lui dire, hein?
Il est fatigué.
Regarde quand je parle.
Quoi?
Regarde
quand je parle. Qui parle? C'est Dieu qui parle.
Oui.
Eh ben, enfin, pour un fou, mais c'est la réalité. C'est des choses qu'on fait déjà.
Je te jure, c'est vrai. Mais dans une fois, il y a un coup, il y a peut-être deux ans, trois ans. Justement, c'est une erreur de penser que ce qu'on fait c'est bien, il faut toujours avancer autrement.
Non, j'ai pas, attention.
C'est ça qui dit.
Je n'ai pas dit qu'on se suffit de ce qu'on fait. C'est pas ce que j'ai dit.
Ah, d'accord, oui, d'accord.
Ce que je dis simplement, c'est que c'est une erreur de croire que la seule teshuva qui est vraiment sérieuse, c'est une teshuva ilaha, une teshuva, voilà, quand elle est nitro, une teshuva en un coup. C'est faux. Teshuva ilaha peut être une teshuva progressive, de niveau en niveau. Il suffit simplement de prêter attention à ce qu'on fait. Et là, on se rend compte qu'en vérité, on fait beaucoup plus qu'on ne pense. Beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus. Là, je vous ai l'exemple de Pessah. On n'a même pas idée le nombre de misos qu'on a fait à Pessah. C'est une folie. Non, mais c'est complètement fou ce qu'on a fait pendant un mois, là. T'as fait un ménage, t'as cherché des miettes, etc. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Le nombre de mitzvot qu'on a fait. Hein? Quoi? Il a brûlé, après il a rempli, après il a bu du vin, après il s'est levé, après il a mangé trois matzot, après il a fait ci, après il a fait ça, etc. Qu'est-ce que t'as fait? On a fait des mitzvot. On a fait la volonté d'Hachem. C'est un grand mot peut-être, mais c'est la réalité. Voilà. Donc tu dis là de Morazaken, tout ça passe par quoi? Ça passe par Hidbenut. Donc on va aller dans les mots, on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Le Cholze, et tout cela, Aliede itbonenut bigdulat en sof baruchu be'amakat adat bishtaim lefanea ou bipsuke de zimra kanoda. On a compris dans ce chapitre que la tfila joue un rôle très important dans le programme d'un juif. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est un des seuls moments dans la journée où le juif s'arrête. Toute la journée, on court. Tu cours. La tfila, c'est un des seuls moments où tu t'arrêtes de courir. Et le but, c'est quoi? C'est que, à ce moment-là, tu essayes un peu de réaliser ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle les Rachamim ont instauré tellement de textes dans la tefila. C'est pas simple pour qu'on court pour le faire. À la base, dans la tefila, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait que le schéma et la Amida. Même la Amida, il n'y avait pas au début. Dans le texte de base, il y avait que le schéma. Après, on a dit, bon, il faut parler Hachem, donc on a, les gens n'arrivaient pas à formuler un texte, on leur a fait la Amida. Après, pourquoi les Rachamim ont rejeté tellement de choses? J'ai expliqué le programme de la tefila. Les Rachamim, ils ont dit, tu peux pas commencer directement le schéma. Faut te préparer au schéma. Donc, on va rajouter des bénédictions avant, des bénédictions après pour préparer l'amida. Après, les rachamim ont dit oui, mais pour arriver aux bénédictions qui préparent le schéma, il faut déjà se mettre en condition. Donc, ils ont dit, on va rajouter les psukei des imra. C'est-à-dire tous les hachrei, etc. C'est les psaumes qui parlent de la grandeur d'Hachem pour te mettre en condition. Comme un sportif. Pas directement courir. Comment il fait, hein, Michel? Comment il fait sportif? Hein?
Échauffement.
Après, les rachamim, une génération après, ils ont dit oui, mais tu peux pas commencer à te préparer pour la préparation si t'es pas du tout réveillé. Donc on a rajouté les kétorettes, on a rajouté les trucs, etc. Aujourd'hui, on se retrouve avec 100 pages. Mais c'est quoi le but des 100 pages? C'est pas d'arriver à la fin de la prière et de dire j'ai lu 100 pages.
Oui, quand même.
Ben non. Tu crois que Dieu avait besoin, il a dit ah bravo, il a lu 100 pages aujourd'hui. Ah ben tiens, je vais lui coller 200 maintenant. Il y a un programme dans la tefila. C'est-à-dire que le but, c'est que tu passes par quelque chose. Que tu sentes un moment que ça décolle.
J'ai quand même l'impression que le but, c'est d'arriver aux 100 pages. Hein.
Ben non, justement.
Ouais, bah je vais.
Alors, allez, et rapidement.
Et c'est pour ça que je précise que la tefila,
Oui.
La tefila, c'est un exemple. Bon, après, non, après, il y a la tefila de la semaine, il y a la tefila du Shabbat. C'est normal. La semaine, il faut aller travailler aussi. Mais d'un autre côté, voilà. On fait déjà la tefila. Tu viens déjà à la synagogue. Tu fais déjà la tefila. Oui, mais si juste tu prêtais un peu plus attention au moment le plus important, tu accorderais plus d'importance. Ça veut dire que la tefila, il y a une progression. Tu sais, par exemple, que le moment le plus fort de la tefila, c'est le schéma et l'amida.
On est plus dans le faire que dans la réflexion.
C'est ce que je suis en train de dire.
Ah oui, mais
ça veut dire qu'avec l'aïd bonenout, ça te permet au moins, d'essayer de concentrer ton énergie, concentrer tes efforts, concentrer ta concentration, hein, sans faire le jeu de mots. Au moins, tu dis par exemple, écoute, je sais pas si je vais réussir à me concentrer sur les 100 pages, parce qu'on lit beaucoup en vérité. On lit beaucoup,
Il y a au moins 70 pages.
Énorme. Tu lis bien 70 pages. Prends un jour de Kippour, tu passes 500 pages.
Oui, c'est
ça. T'arrives à la fin de la journée, si tu comptes les télélignes, tu passes 700 pages.
Il y a 200 pages.
Hein. Ah, non, c'est très long, Rabat.
C'est pas moins, non.
Très long aussi. Encore plus long. Rabat, c'est encore plus long. Tu arrives à la fin de la journée, tu dis, on a lu aujourd'hui avec les télés, j'ai lu 700 pages. Bon. Qu'est-ce que ça change, les 700 pages, hein? Mais ça change rien.
Ah oui, c'est pour dire bêtement.
Voilà. La question, c'est que toi, tu as lu. Ah. Mais qu'est-ce que le texte a dit?
Je n'ai pas compris.
Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Parce que 95% des gens qui lisent, d'abord, les gens, ils comprennent rien. On comprend. Moi, le premier, hein. Allez,
ouais. Mais vous avez des livres avec la traduction?
Ouais. Non, mais pourquoi on instaure pas? Moi, je vois, quand je prends des livres avec la traduction, quand je prends conscience du niveau du texte, moi, je suis en train de dire ça, là.
Bah oui, c'est ça, exactement.
Moi, je suis en train de dire ça. Alors que, si j'ai pas conscience du texte, là, je vais mettre... Hop, circuler, puis rien avant.
C'est vrai. Parce que c'est pour méditer, pour prendre conscience.
Il faut même celui qui connaît l'hébreu.
C'est beaucoup plus facile.
Il faut au moins s'efforcer déjà à commencer le schéma et l'amida. Ça, au moins, essayer de lire la traduction du schéma et de l'amida au moins une fois. Après, tu relis encore une fois. Pour essayer de faire en sorte que quand tu lis l'amida, tu comprends un peu ce qui se passe là-bas.
Ah oui.
Tu lis pas du chinois. C'est pas un texte en chinois que tu lis bêtement. C'est un texte que, même si tu fais des fautes quand tu lis, mais au moins tu sais de quoi ça parle. Et encore une fois, le chidouche de ce chapitre, c'est que l'Admor Hazaka te dit « Je ne te demande pas de faire quelque chose que tu ne fais pas. Je te demande de faire ce que tu fais déjà, mais de l'améliorer. » C'est-à-dire qu'en vérité, tu as déjà un potentiel de teshuva ila, mais tu ne le fais pas. Donc on peut améliorer. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continue le chapitre la semaine prochaine. Sinon. À méditer.
Ça va ?